Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue au podcast Diplonate où on parle d'enjeux internationaux et sociaux. Cette semaine, on va parler du Vietnam et plus particulièrement de l'influence chinoise sur la vie sociale et politique vietnamienne. On va aussi aborder la fameuse question des relations pas toujours heureuses entre la Chine et le Vietnam. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai avec moi un invité spécial, Jean-François, professeur de sociologie et aussi un passionné du Vietnam. Bonjour Jean-François.
Bonjour Natacha.
Ça va bien?
Ça va bien, merci. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Jean-François, je te connais dans le cadre de mon stage du Vietnam au Cégep de Sherbrooke et là, les gens vont se demander... C'est quoi ça, le stage du Vietnam? Eh bien, dans le fond, pendant un an, quand j'étais au cégep, je me suis préparée à faire un stage d'un mois au Vietnam, où est-ce que j'allais faire un documentaire et puis un message dans le cadre de la culture vietnamienne, une question que j'aurais choisie. Finalement, j'ai jamais pu y aller parce qu'il y a eu la pandémie.
Exact.
Est-ce que tu peux expliquer juste un peu plus les autres détails autour de ce stage-là?
Oui, le stage Vietnam, c'est un programme de stage international qui existe au cégep de Sherbrooke depuis maintenant 14 ans. Il y a toujours eu des stages internationaux au cégep de Sherbrooke dans le programme de sciences humaines. Jadis, c'était au Nicaragua que ça se passait. Pour des raisons X, Y, Z, la destination a changé. Et puis, depuis 14 ans, c'est le Vietnam qui est devenu la nouvelle cible. Moi, pour ma part, ça fait 5 ans cette année que je suis à la barre, un des co-organisateurs donc, de ce projet-là, qui est un projet effectivement d'un an où on invite une vingtaine, 25 étudiants environ qui sont sélectionnés, à vrai dire, pour participer à ce stage-là. Un an dans la mesure où il y a des cours qui sont associés au stage qui va finir par se dérouler sur le terrain. 3 cours à l'automne, 3 cours à l'hiver qui sont des cours de préparation à la connaissance de l'histoire, la culture et éventuellement des cours aussi méthodologiques puisqu'effectivement c'est un stage d'études. L'objectif c'est de s'y rendre éventuellement et d'y tourner un documentaire, d'y réaliser un documentaire sur différents thèmes. Ces dernières années, le thème c'est beaucoup la question de la jeunesse à ou une certaine jeunesse hanoïenne, celle qu'on rencontre à travers le jumelage. Parce qu'à travers le stage, il y a tout un enjeu de jumelage.
Ouais.
À distance d'abord, puis sur le terrain. Toi, tu as connu la version à distance.
Exactement, un jumelage en ligne, avec essayer de se comprendre en parlant français ou en anglais, dépendamment du niveau de compétence des Vietnamiens et Vietnamiennes.
Exact.
Donc, ça fait 5 ans quand même que tu fais ce projet-là.
Oui.
5 ans, 3 ans là-dessus, où est-ce qu'on n'est pas allé au Vietnam?
Exact.
Vous n'êtes pas allé. Moi, j'étais une de ces années-là.
Tout à fait. La première année que je me suis inscrit, on devait y aller. Là. C'était en 2019-2020. Donc, au mois de décembre, on a appris que quelques Chinois avaient chopé une grippe étrange. Au mois de janvier, nous, on était déjà sur le qui-vive parce que le Vietnam était un jet de pierre ou un jet d'éternuement du Vietnam. Donc, on se doutait bien que ça commençait à tourner mal pour nous. Mais ici, en Amérique, on n'en parlait pas encore de cette pandémie-là à venir. En fait, on ne parlait pas de pandémie du tout. Fait qu'on était en processus de partir jusqu'à ce que le 13 mars, on nous apprenne que non seulement on ne partira pas au Vietnam, mais qu'on ne sortira pas de nos chambres. Donc, on a dû réorganiser la fin de cette cohorte-là qui a été un peu dramatique. Les 2 années suivantes, on a démarré le projet en ne sachant pas si on était pour partir. Il y avait beaucoup d'invraisemblables de pouvoir quitter le pays, mais on ne savait jamais. Donc, effectivement, pendant 2 années, on a réalisé le stage à distance pendant l'année ici et en jumelage avec des Vietnamiens et Vietnamiennes de l'Université de Hanoï au département de français, donc qui ont des compétences moyennes.
Moyennes à élever, ouais, dépendamment. Puis,
Et puis là, l'année dernière, l'année dernière, on a pu enfin redécoller le stage pour se rendre pour le vrai au Vietnam. Donc, on a passé le mois de mai dernier au Vietnam avec cette cohorte-là. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés au Vietnam au mois de mai l'année dernière. Et puis ça a été une super aventure, justement, parce que comme on avait travaillé ensemble sans y être allé, ça permettait de concrétiser enfin quelque chose.
C'est ça, de combler la boucle. J'attendais depuis vraiment longtemps ce voyage-là. Moi, j'étais persuadée qu'après moi, la cohorte suivante irait. Finalement, ils ne sont pas allés non plus. Donc, quand vous nous avez dit « vous y allez enfin », c'était vraiment une joie.
Oui.
Jean-François, c'est quoi qui t'a motivé à la base de t'intéresser au Vietnam?
Bonne question. À vrai dire, c'est une courte, longue histoire. C'est-à-dire que ça fait pas si longtemps, ça fait 5 ans, mais en même temps, on pourrait en parler longuement parce que c'est rapidement devenu une passion, voire une obsession, le Vietnam pour moi. Mais à la base, c'est tout simplement qu'on m'a invité à être accompagnateur. Là, on remonte en 2015, accompagnateur de ce stage-là. Mais là, je n'étais pas un prof enseignant, je n'étais pas titulaire d'un cours, j'étais vraiment juste le bénévole de service pendant les 5 semaines sur le terrain. Je ne connaissais rien du Vietnam. Pour moi, le Vietnam, comme la majorité, c'était une guerre, finalement.
À ce moment-là, il n'y avait rien, là, aucune connaissance.
Je connaissais à travers le cinéma américain, je connaissais la guerre dite du Vietnam, mais donc je ne connaissais pas le Vietnam parce qu'à travers les films américains, on voit la guerre du Vietnam vue par les Américains. Donc, je ne connaissais rien. Puis, pour être très honnête, je n'avais pas beaucoup d'intérêt ou de curiosité pour l'Asie en général. Je m'étais intéressé à l'Afrique, j'y ai voyagé, à l'Amérique latine, à l'Europe. L'Asie, c'est un domaine qui ne m'interpellait pas tant que ça. Mais les 5 semaines là-bas m'ont rentré dans le corps, c'est-à-dire que j'ai rencontré un beau pays, des personnes formidables, évidemment quelque chose d'extrêmement intriguant. C'est vraiment une autre civilisation, c'est d'autres comportements, c'est d'autres manières de rentrer en relation. Ça m'a vraiment intrigué. Donc, quand on m'a reproposé d'y embarquer de nouveau, mais cette fois-ci comme prof titulaire, bien, j'ai accepté avec plaisir. Puis là, je me suis imbibé parce qu'il faut... Il faut en savoir davantage pour pouvoir l'enseigner. Ouais. Puis depuis 5 ans, donc j'en ai développé effectivement une passion sous tous ces aspects. Et c'est ce qui fait de moi un mauvais interlocuteur parce que je m'intéresse à tout, mais donc je suis spécialiste de rien dans la mesure où à chaque fois que je m'accroche dans un ouvrage qui, de près ou de loin, traite du Vietnam, ça m'interpelle. Et donc je lis autant sur... le concept de virginité dans les romans vietnamiens que sur les enjeux géopolitiques actuels. Donc tout m'interpelle. Et ce faisant, ça m'appelle à élargir continuellement la tentative de compréhension de ce pays-là.
Ouais, c'est vraiment c'est vrai. Et en même temps, tu as toujours eu une belle éloquence quand tu parlais dans les cours, un bel intérêt. Je me rappelle encore des échandails différents sur le Vietnam à chaque cours. C'était bien intéressant. Puis, dans le fond, tu parlais que tu as repris le stage récemment quand tu es rentré ici, que maintenant tu as pris un peu la place de Lucas, Lucas qui était l'ancien professeur, le 3e mousquetaire quand moi j'ai eu le stage.
Oui.
Maintenant, c'est quoi ton rôle exactement? Puis qu'est-ce que ça t'a amené à faire?
Les 2 premières années que j'ai embarqué comme prof, j'étais titulaire du cours de IPMSH, initiation pratique à la méthodologie en sciences humaines. Donc c'était tout l'enjeu du développement des compétences méthodologiques qui vont être mises au service finalement du projet de fin de session ou de fin d'année qui va devoir être fait plus tard. Et mon collègue, Lucas, donc Deschênes, professeur d'anthropologie, lui donnait un cours d'anthropologie du Vietnam. Et puis, on avait un 3e collègue qui donnait un cours d'histoire du Vietnam. Quand Lucas a cédé sa place, on s'est retrouvé avec 2 profs d'histoire et 1 prof de sociaux, moi en l'occurrence. Et donc, évidemment, on ne pouvait pas avoir 2 cours d'histoire. Donc, c'est moi qui ai repris en quelque sorte le flambeau. Je donne maintenant, c'est ma 3e année, un cours que j'ai intitulé « Quelque chose comme une sociologie du Vietnam » parce que je n'ai pas la prétention de faire une sociologie du Vietnam.
Okay.
Mais on s'intéresse donc au Vietnam sous toutes ses facettes, sous cet angle socio-anthropologique. Donc, c'est un cours qui vise à s'initier en parallèle du cours d'histoire qui, lui, s'intéresse vraiment aux périodes anciennes jusqu'aux périodes contemporaines. Moi, on vise surtout à comprendre les fondamentaux de la culture vietnamienne et ses déploiements dans le monde contemporain, notamment sur le plan de la culture et des institutions politiques, sur le plan des tendances démographiques, etc. Donc, on vraiment cherche à se doter d'outils de compréhension du pays qu'on va aller visiter pour être à même ensuite de poser les bonnes questions, d'interpréter correctement ce qu'on va voir.
Et oui, puis je pense que ça l'a aidé justement quand t'es arrivé au Vietnam pour la première fois, ou disons plus au cours de tes voyages au Vietnam. Qu'est-ce que tu as le plus remarqué par rapport à ce que tu enseignais, par rapport à ce que tu étudies sur le Vietnam, de la culture là-bas?
Il y a quelque chose de fascinant dans le fait que quand on aborde le Vietnam dans son abstraction littéraire, là, dans la littérature scientifique, en sciences humaines en général, un gros débat qui occupe la scène, c'est toujours, et c'est vrai du Vietnam comme de plein de pays non occidentaux, c'est toujours cette idée d'une polarité ou d'une tension entre, disons, pour simplifier, tradition et modernité. Mais toujours vu à travers le paradigme occidental de la tradition, compris comme quelque chose d'un peu figé, d'essentiel et de passé, versus la modernité, quelque chose qui serait en mouvement et qui serait dans l'ordre du présent, voire du futur. Ce qui est fascinant quand on débarque au Vietnam, c'est qu'armé de ces concepts-là, on se rend compte qu'ils se liquéfient au contact de la réalité, puisque la réalité, on n'est pas capable de la caser entre ces 2 pôles-là, ou plutôt il faut la placer quelque part entre des pôles qui sont des idéotypes qui n'ont pas d'incarnation au Vietnam. Ce qui apparaît comme traditionnel au Vietnam est peut-être a peut-être été inventé la semaine dernière, ou il y a quelques années, ou il y a quelques décennies, ou c'est quelque chose qui a été instrumentalisé par le régime politique, par exemple, actuel, où on a puisé à même ce mythe des 4000 ans de l'histoire vietnamienne. Mais pendant 4000 ans, les Vietnamiens ne sont pas faits à croire qu'ils avaient 4000 ans. Ça va, ça vient. De la même façon que tout ce qui est moderne, parce qu'il y a effectivement quelque chose comme un rapide déploiement de l'industrialisation, de l'ouverture sur le monde aujourd'hui, bien tout ça, c'est toujours réincorporé, réinterprété. Les Vietnamiens ont une puissance synthétique ou syncrétique hein, d'absorber ce qui n'est pas eux pour le vietnamiser. Donc, tout d'un coup, on se retrouve avec des catégories mentales qui sont en porte-à-faux avec la réalité. Ça, c'est la chose la plus fascinante puis qui nous amène obligatoirement à se poser de nouvelles questions une fois rendu sur place.
Oui, exactement. Quand tu dis qu'on n'est pas capable de caser les éléments dans la modernité ou dans la tradition, parce que la tradition n'est pas nécessairement la tradition, c'est pas nécessairement des vieilles choses. Tu as des exemples de ça? Par exemple, que ce soit des danses traditionnelles ou ce que nous, on pense qui est traditionnel, qui ne serait peut-être pas nécessairement.
Bien, un exemple parmi d'autres, il y a quelque chose qui est fondamental là, en Asie, dans le monde sinisé, hein, dans le monde sous l'influence chinoise depuis des millénaires, qui se répercutait à travers ce qu'on a appelé le confucianisme et qui est très présent au Vietnam, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la piété filiale. Le respect, voire l'espèce de dévotion que les jeunes doivent aux plus âgés et qui au Vietnam est interprété selon un principe de réciprocité, c'est-à-dire que les plus âgés ont le devoir, en contrepartie de l'obéissance qu'on leur doit et du respect qu'on leur doit, ont le devoir, eux, de prendre soin d'aimer, d'encadrer et de transmettre finalement à la nouvelle génération les conditions de la vie future.
Ça, c'est lié au confucianisme, si je ne me trompe pas.
Oui, en grande partie. Quoique ça peut être interprété bien avant que Confucius existe là, en tant que tel dans les communautés sud-est asiatiques. Cette idée de l'importance cruciale de la famille et de l'immersion de l'individu dans cette famille-là. Ça, ce principe-là, il est très, très, très vieux. Mais en même temps, il a subi des aléas à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des régimes politiques, il y a des dynasties vietnamiennes qui ont cherché à l'instrumentaliser, qui ont cherché à la court-circuiter aussi pour brancher directement la logique de l'obéissance sur le mandarin, c'est-à-dire le représentant de l'État dans l'espace local, au détriment des notables du village qui étaient finalement nos anciens, nos ancêtres, nos propres parents. La même chose avec le Parti communiste qui, lorsqu'il a pris le pouvoir dans les années 40-50, pendant la guerre dite d'Indochine, a cherché à court-circuiter cet espace-là de dévotion interne à la famille pour pouvoir brancher directement l'individu sur le parti. Cette chose-là n'a pas fonctionné.
Il voulait mettre de l'avant l'individu?
Il voulait plutôt brancher la logique de l'obéissance sur le parti, le cadre.
Je comprends, de transférer cette idéologie-là au parti pour que les Vietnamiens respectent le parti aussi.
Donc, en court-circuitant la logique de base au Vietnam, puis qui se retrouve dans le monde sinisé en général, en Chine aussi, qui est un monde de village, finalement, c'est une fédération de communes, ces sociétés-là anciennes. On a essayé de court-circuiter ça pour brancher ça sur une logique tantôt dynastique, tantôt l'idée d'un État-nation. À chaque fois, ça a échoué. Ou en tout cas, à des degrés divers, ça a échoué. Donc, on voit ensuite la résurgence. Quand le parti, par exemple, pour prendre cet exemple le plus récent, le plus contemporain, quand le parti s'est aperçu dans les années déjà 60-70 que essayer de court-circuiter la logique des communes s'était voué à perdre finalement leur légitimité. Mais ils ont, au contraire, sont mis à encenser cette logique-là. Et donc là, aujourd'hui, on a un Vietnam dans lequel la famille est très importante et l'idéologie de la famille est soutenue par l'État, mais est-ce que ça puise au monde ancien? Est-ce que c'est une forme d'instrumentalisation extrêmement moderne? C'est ambigu. Mmh. C'est là que ça devient intéressant de réfléchir à ces choses-là. La famille est extrêmement importante dans le monde vietnamien et en même temps, il y a 22 ans, le parti a dû promouvoir une journée nationale de la famille. On n'a pas besoin de faire une journée nationale de quelque chose si la chose est si viscéralement attachée. Donc là, on voit comment il y a... C'est dur d'interpréter les choses d'une manière très noir ou blanc. Là.
Parce que c'est très mélangé. Est-ce que tu te rappelles quand on se promenait sur le bord du lac Long Kem et qu'on a vu une affiche qui était une propagande communiste, on peut l'appeler comme ça, qui était par rapport à la famille, justement. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, cet aspect-là, dans ma tête, à moi, devrait plus avoir besoin d'être publicité parce que la famille est ancrée dans la culture vietnamienne aujourd'hui. On l'a vu avec nos jumeaux jumelles, on l'a vu quand on se promenait. Que les aînés ont une place importante, puis les jeunes respectent leurs aînés. Mais C'est quoi la position du parti aujourd'hui?
Mais justement, si on continue à faire la promotion de la chose, nous, on appelle, effectivement, ça s'appelle de la propagande, mais ici, le même phénomène, on appellerait ça de la sensibilisation ou de la santé publique, oui. Là, d'une certaine manière. Mais si on continue à faire ça, c'est parce que quelque chose semble se transformer. Il y a effectivement de moins en moins de gens qui veulent se marier. Attention, la majorité des Vietnamiens se marient, c'est considéré comme étant un phénomène naturel, inévitable, normal, mais il n'y en aura pas moins que les taux de mariage, on les voit diminuer. On voit les taux de divorce augmenter, pas d'une manière spectaculaire, mais suffisante pour sentir qu'il y a une transformation là. Il y a de plus en plus de Vietnamiens, puis encore une fois, il ne faut pas exagérer, on n'est pas en Occident, on n'est pas au Québec, mais il y a de plus en plus de Vietnamiens qui habitent seuls, qui font le choix d'habiter seuls.
C'est aussi surprenant.
C'est surprenant, mais c'est très peu par rapport à nous. Là, on parle de à peine 10 % de la population vietnamienne, alors qu'ici, c'est un ménage sur trois. Mais il en demeure pas moins que c'est un phénomène nouveau au Vietnam, ça, que des gens fassent le choix d'habiter seuls. Donc, il y a quelque chose qui est en transformation.
C'est quelque chose qui déplaît au Parti communiste?
Bien, c'est quelque chose qui pourrait finir par leur échapper, dans la mesure où, justement, pour se donner une légitimité, le parti s'est porté garant des coutumes dites traditionnelles, qui sont souvent récupérées, réinventées, réinterprétées, et qui ont de traditionnel souvent que le nom, ou à peu près. Mais ils sont portés garant de cette identité nationale-là, surtout depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où, avec la fin de la guerre, avec la fin de la confrontation Est-Ouest, avec la fin de la guerre froide, avec le changement de régime aussi sur le plan de la structure économique, en tout cas de la production économique, le parti a dû trouver une nouvelle légitimité qui n'était plus la construction systématique des lendemains qui chantent du communisme.
Okay.
Donc, on s'est donné comme nouvelle légitimité le maintien de l'identité nationale et des bonnes pratiques morales, considérées comme étant le lieu où on va incarner le respect pour les autorités en général. Donc, l'autorité du père, l'autorité du maître, le professeur, l'autorité éventuellement du chef de parti, et ainsi de suite, et ultimement de l'État-parti.
Oui, justement, tu nommes l'autorité du maître, du père, du chef de parti. Dans l'éducation, c'est quelque chose qui clash avec, ici en Occident, les professeurs sont très différemment, je pense que tu peux confirmer.
Oui, assurément. Pour le meilleur et pour le pire, là, d'une certaine manière, parce que c'est des conceptions de l'éducation. Des conceptions de la transmission aussi et de l'objectif de l'éducation. Sur beaucoup d'écoles au Vietnam, sur le fronton, il est écrit, je ne me souviens plus comment ça se prononce en vietnamien, donc je vais le dire en français, là, mais ça se traduit à peu près comme tel. D'abord la moralité, ensuite les connaissances.
OK, ça parle beaucoup.
Ça parle beaucoup. Ça nous dit comment l'école, c'est la continuité de la famille, à l'intérieur de laquelle on apprend finalement à respecter son rang, respecter sa place, et éventuellement, ça passe par la médiation du respect d'autrui. Puis ensuite, tu développes des connaissances. Nous, on a une conception de l'école, depuis longtemps, comme lieu du développement de l'esprit critique, comme lieu du développement de l'individualité même. Donc, oui, la moralité, bien sûr, quoi, à l'école, les enfants...
L'éthique, oui, on l'apprend, mais exact. C'est pas en premier plan.
C'est pas la première chose, puis même à travers ça, ce que l'on vise, je pense par exemple à l'école primaire, là, il faut que les enfants y apprennent à être gentils avec leurs amis, mais il faut qu'ils apprennent surtout les raisons pour lesquelles il faut être gentil. Il faut qu'ils développent une espèce d'appropriation critique des normes pour pouvoir les appliquer correctement. On n'est pas dans la logique, j'aurais presque envie de dire, du dressage. On l'a déjà été, d'ailleurs. Mais alors qu'au Vietnam, on est encore là. C'est pour ça que je dis pour le meilleur et pour le pire. Il y a un rapport, donc, au maître, celui qui est le possesseur, non pas de la connaissance, mais de la moralité, qui est différent, justement, au Vietnam. Mais c'est vrai que ça se manifeste concrètement. Quand on est au Vietnam avec nos étudiants, nous, on est assis dans la rue, on prend une bière, on s'amuse, on placote, on discute, on parle de nous, de nos émotions, de ce qu'on vit, et c'est réciproque avec les étudiants. Les jumeaux-jumelles vietnamiennes et vietnamiens, ils sont placés face à ça avec des yeux exorbités. Là. Jamais ils oseraient parler comme ça à leur professeur. Jamais ils s'imagineraient pouvoir souper, dîner, manger, prendre un verre avec leur professeur, rigoler, se taquiner. T'sais, pour eux, il y a quelque chose, une forme de liberté qui leur appartient pas, puis ça les horrifie pas, mais ils sont surpris. Ils sont très, très, très surpris, puis nous, ils continuent à nous vouvoyer, puis à se pencher par devant lorsqu'on s'adresse à eux. Il y a une forme de respect corporel.
Une grande prestance aussi. Un professeur au Vietnam, c'est quelque chose de prestigieux.
Exact. Tout à fait. Ça change de la réalité québécoise.
Il faudrait donner un peu plus de mérite aussi aux professeurs. Là. C'est une, pas une profession qui est évidente ni facile. Puis,
pour en donner un exemple, si on puise justement dans la tradition vietnamienne, le moment le plus important de la vie rituelle, spirituelle, culturelle vietnamienne, c'est le Nouvel An, ce qu'on appelle la fête du Tet, qui se déroule sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Mais lorsqu'il arrive vraiment la journée même du Nouvel An, cette journée-là est consacrée à la famille paternelle. La deuxième journée est consacrée à la famille maternelle et la troisième journée est consacrée aux professeurs. Donc, on voit vraiment cette idée qu'en cercle concentrique, là, la famille paternelle qu'on appelle la famille intérieure, la famille maternelle qu'on appelle la famille extérieure, après ça, le cercle après la famille, c'est le monde de l'éducation, donc c'est qui est symbolisé par la personne du maître, du lettré à l'époque, qui est possesseur de la connaissance.
Il y a une grande reconnaissance, c'est ça. Mm. Au même titre qu'on reconnaît tout ce que nos parents font pour nous, mais là, on reconnaît ce que l'éducation fait pour nous, donc les professeurs. Puis, ça me fait penser... tu sais, au début de l'émission, on voulait parler de l'influence chinoise aussi. Puis, dans l'éducation, je pense qu'on le voit un peu, cette influence chinoise-là. On a parlé pendant longtemps de ce que la Chine avait apporté, comment l'éducation, c'était important. Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
Bien, assurément que cette question-là, elle provient des transferts culturels qui a structuré le Vietnam d'aujourd'hui sur des millénaires. Hein. Le rapport entre la Chine et le Vietnam, c'est un rapport millénaire, même fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. Rapport de domination, rapport de résistance, rapport de transfert et d'acculturation, mais il y a beaucoup de choses qui ont filtré, qui ont façonné ce que l'on appelle aujourd'hui le Vietnam, mais qui, à une autre époque, était tantôt une colonie chinoise, tantôt une espèce de protectorat plus ou moins dirigé d'une manière directe ou indirecte, tantôt a été un État plus ou moins vassal. Donc, la Chine a toujours été un pôle dans le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, et le Vietnam a toujours été un satellite ou en orbite autour de tout ça. Et les transferts sont faits à différents niveaux, dont au niveau de l'écriture. Et l'écriture chinoise, idéographique ou idéogrammique, elle colporte toute une culture. Hein. Ce n'est pas juste un moyen de communication, c'est un rapport au monde. C'est vraiment une forme d'interprétation ou d'accès à une certaine manière de concevoir le réel. Donc déjà, l'importation ou l'imposition d'une certaine forme d'écriture a imposé tout un cadre mental, civilisationnel, qui se résume ensuite à travers différents enseignements qui ont pu être transmis d'une manière formelle ou informelle, le taoïsme, le bouddhisme, et dont le confucianisme, qui effectivement, lui, met beaucoup l'accent sur la stabilité sociale, sur l'importance de la moralité, sur l'importance des rites, et sur l'importance donc de l'éducation, de l'apprentissage de ces rites et de cette moralité-là. Avec toute la structure hiérarchique que ça implique, de l'empereur au dernier des sujets, avec entre deux cette espèce de caste, de mandarins, de lettrés, des gens qui sont possesseurs du rapport au réel à travers la maîtrise des lettres et qui vont donc pouvoir transmettre ces connaissances-là à des degrés divers selon les degrés de facilité d'accès.
Oui, je me rappelle plus si l'éducation à ce moment-là était accessible à tous. C'était quoi la philosophie? Accessible à tous ou juste pour les gens qui le méritaient, comme le caste?
À vrai dire, il faut faire la distinction, comme toujours, sur toute chose, là, entre l'idéologie et la réalité, entre le discours et la pratique. C'est-à-dire que le discours confucéen, c'est un discours très, très, très ouvert. On dit de Confucius parfois qu'il est le premier des humanistes, finalement, dans la mesure où il est celui qui a posé cette idée très choquante à son époque, que la noblesse n'était pas un phénomène héréditaire, que ça devait être un phénomène qu'on acquiert par l'étude.
C'était sage comme parole.
C'était très sage comme parole, mais c'est souvent interprété d'une manière un peu anachronique lorsqu'on le rapporte à une espèce d'humanisme universel, dans la mesure où ça reste un Chinois du 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ.
C'était avancé pour son époque quand même, comme philosophie, tu l'as mentionné un peu.
Bien, c'est choquant pour l'élite, mais dans les faits, entre la philosophie et la réalité, c'est que Confucius croit quand même qu'il y a une noblesse. C'est juste qu'elle ne s'acquiert pas de la même façon. Et donc, il y a quand même une élite qui doit pouvoir dominer un peuple considéré comme étant l'homme vulgaire, celui qui n'a pas eu accès à la moralité.
Dans ce cas-ci, qui étaient les Vietnamiens.
Entre autres, mais le peuple en général en Chine, les Vietnamiens pour le pouvoir vietnamien, chinois. Mais en même temps, chez les Vietnamiens eux-mêmes, on a adopté aussi cette lecture-là de la stratification sociale. On a adopté cette idée qu'on va mettre en place des systèmes de concours pour essayer de favoriser l'accès à l'éducation, mais l'idée qu'il serait un accès à l'éducation universelle, c'est un anachronisme. dans la mesure où pour pouvoir avoir accès à l'éducation, déjà, il faut avoir du temps. Et puis l'écrasante majorité des peuples paysans, ils n'ont pas de temps parce qu'ils travaillent du coup, lever au coucher du soleil. Ils n'ont pas de temps à consacrer à ces choses-là. Et donc, on arrête très rapidement, bien que l'accès était immédiat dans chaque village, il pouvait y avoir un lettré qu'on entretenait.
Mais la réalité en est différente.
Exact. Donc, il y avait quand même un système de classement, d'une certaine manière, qui faisait en sorte que les mandarins se reproduisaient grosso modo entre eux, ce qui a créé d'ailleurs des clivages dans l'histoire vietnamienne entre les élites locales et les élites mandarinales qui étaient dépêchées par l'empereur dans les villages. Mais l'idéologie sous-jacente y est, cette idée que c'est par l'éducation qu'on devient un meilleur être humain et qu'on pourrait mériter d'être dans une posture d'autorité. Et cette idéologie-là est restée, puis elle reste encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, bien que l'accès à l'éducation soit limité pour beaucoup de Vietnamiens pour plein de raisons, il y en a pas moins que la croyance est forte dans cette idée que c'est par l'éducation qu'on accède à quelque chose au-delà d'un métier payant, qu'on accède à un certain statut d'humanité. Et donc, on valorise beaucoup, beaucoup l'éducation au Vietnam.
Je pense que tu l'as bien nommé, tu sais, justement, c'est pas juste d'accéder à quelque chose de payant, mais c'est aussi, c'est tellement important, c'est ancré, c'est d'accéder à quelque chose de prestigieux pour eux, l'éducation primordiale.
Oui, c'est un statut. Oui.
Exactement. Il y avait des familles, tu sais, on voyait des documentaires dans le cadre des cours, où est-ce que les familles sont prêtes à payer beaucoup d'argent pour engager des tuteurs privés juste pour que leur enfant ait des meilleures notes.
Oui.
À tel point, c'est important, même si ces familles-là ont très peu d'argent. Parlant d'économie puis d'argent, c'est quoi les conséquences que ça a laissé au niveau économique? T'sais, parlons du marché, comment l'économie se fait, la marchandise, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte moins?
Ça, c'est compliqué hein, parce qu'on ne peut pas en parler d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il faut l'ancrer dans l'histoire. Puis l'histoire récente, elle est catastrophée. Hein? Elle va vite, vite, vite. Si on voulait y aller vraiment rapidement, très, 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 trop rapidement, on pourrait dire qu'on a une très, très longue période qu'on va appeler une espèce d'héritage sino-vietnamien, là, où la civilisation vietnamienne se constitue dans son rapport d'amour-haine avec la Chine, dans lequel on a là une civilisation essentiellement rurale, paysanne, qui risicole, en fait, et qui vit d'autarcie locale ou à peu près. Ça, c'est des millénaires, finalement. Mais évidemment, on fait beaucoup de court-circuits ici, là, parce qu'à travers tout ça, il y a des développements qui se produisent, notamment des enjeux géopolitiques, quand les frontières s'ouvrent, quand les frontières se ferment avec la Chine ou avec le reste de l'Asie. Plus ou moins de développement ici des villages de métiers, des artisanats locaux, etc. Donc,
c'est compliqué. L'artisan était très présent. Puis exact. Là, tu l'as mentionné aussi, avec la relation avec la Chine, indépendamment si les frontières étaient ouvertes ou si les frontières étaient fermées.
Fait que c'est là qu'on ne peut pas résumer 2, 3, 4 000 ans d'histoire en une phrase. Mais si on veut simplifier un peu, on peut dire lorsque l'Occident ou l'Asie se rencontrent, disons ça comme ça, de manière plus concrète qu'à travers l'imaginaire de Marco Polo et d'autres. Quand au 19e siècle, cela dit, les puissances coloniales débarquent en Asie, notamment au Vietnam, ben c'est ça qu'elles ont devant elles. Elles ont des sociétés agraires ancrées dans la terre, ancrées dans la commune, avec leurs dieux du village, etc., qui donnent l'impression d'une espèce d'immobilité multimillénaire, ce qui n'est évidemment pas vrai quand on rentre dans le détail de l'histoire. Mais néanmoins, il y a un choc, là, un bouleversement avec la colonisation, phase en quelque sorte...
L'histoire de la colonisation
française, au Vietnam. Ce qui est une phase finalement de mondialisation. Hein. C'est, tout d'un coup, le pays où les différents territoires asiatiques se trouvent branchés sur une dynamique mondiale, dominée bien sûr par les puissances européennes et éventuellement américaines, qui elles, sont à un autre stade... Quoique le mot stade n'est peut-être pas approprié.
Si l'on fait référence au développement linéaire, mais il y a des critiques là-dessus. On sait que ce n'est pas juste linéaire, le développement, qu'il y a beaucoup d'autres formes aussi.
Mais ils sont quand même mis en contact justement avec certaines formes de capitalisme industriel, mais évidemment dans une posture de dominé. Hein, c'est ça le problème de la colonisation. Donc une posture de producteur de ressources qui vont être éventuellement transformées ailleurs, une posture d'exploitation du travail, etc., etc. Donc ils vont être mis en contact avec cet univers-là et ça va générer ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce 20e siècle tumultueux à l'échelle de la planète, mais particulièrement dans les régions qui ont mené des guerres de décolonisation et pour lesquelles, pour plusieurs du moins, ils ont été happés par la confrontation finalement qui va se construire autour de, simplifions les choses, le capitalisme et le communisme comme idéologie.
Ouais.
Et donc là, le Vietnam, en entrant dans cette dynamique-là, ben, ça change évidemment sa logique de production. Si on revient à ta question, là tout d'un coup, on n'est plus dans cet idéal de l'autarcie locale. On rentre dans un nouveau paradigme de la production socialiste, cette idée qu'on va abolir la propriété privée, qu'on va collectiviser les terres, qu'on va produire sous la forme de coopératives agricoles ou sous la forme d'entreprises d'État. On va mettre l'accent beaucoup sur l'industrie lourde, ce qui va être un échec lamentable parce qu'on part de, très, très, très loin.
C'est qui avait eu l'idée d'imposer l'industrie lourde exactement? C'était-tu la Chine?
En fait, non. Une bonne question et complexe. Là. Le Vietnam s'est trouvé à la croisée hein, de ces deux grands pôles du communisme mondial dans les années 50, 60, 70, que sont la Chine, bien sûr, mais l'URSS aussi, d'abord. Mm-hmm. La Chine a été très, très, très marquante pendant la première guerre de décolonisation, ce qu'on appelle, nous, ici, la guerre d'Indochine, et que les Vietnamiens appellent la guerre française ou la guerre contre les Français. C'est la Chine, surtout, qui a supporté le Vietnam dit communiste ou socialiste, surtout à partir des années 50, 51, lorsque, d'une guerre de décolonisation, on a basculé dans la guerre froide. Et là, la Chine, qui avait fait sa propre révolution communiste en 1949, s'est mise à appuyer son petit frère vietnamien en l'armant, notamment en approvisionnement alimentaire, vestimentaire et aussi en conseil technique.
Peut-être un peu forcé.
Un peu forcé, qui d'ailleurs, en tout cas, c'est ce que la petite histoire nous dit, là, qui a été plus ou moins bien reçu par les Vietnamiens. Certaines tendances, parce que le Parti communiste vietnamien n'est pas un parti monolithique, ne l'a jamais été, ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc, il y a des factions là-dedans. Il y a des gens, par exemple, plus près de l'autorité centrale, qui était Ho Chi Minh et l'état-major, qui n'étaient pas très chauds à l'idée de se vendre, entre guillemets, aux Chinois. D'autres qui voyaient quand même l'opportunité d'y trouver les armes qu'il fallait pour la libération nationale. Et c'est plus tard, donc, que la rupture va se faire et que là, on va adopter plutôt, à partir des années 60, l'esprit, plutôt appelons-le stalinien, c'est-à-dire cette idée, justement, de mettre l'accent sur le développement de l'industrie lourde. Ce qui va s'avérer être un échec, là, il faut l'avouer.
Puis, quand tu dis que la Chine est venue aider comme son petit frère, c'est quoi la transition entre le moment où est-ce que la France colonise le Vietnam puis le moment où est-ce que la Chine intervient pour supporter le communisme? Parce qu'on sait que Ho Chi Minh a été un grand leader du mouvement d'indépendance puis du mouvement communiste aussi, parce que le Nord voulait absolument créer un État communiste. Puis, quel impact la Chine a eu à ce moment-là? Comment elle est venue aider? Puis, c'était quoi ses motivations autres que politiques?
Oui, bonne question. Aujourd'hui encore, on parle du dernier siècle comme le siècle des humiliations pour la Chine. C'est-à-dire la Chine, une méga-civilisation, une très longue histoire, des niveaux de développement technique, scientifique, culturel extrêmement importants, a vécu le 19e et une grande partie du 20e siècle comme une grande humiliation, là, c'est-à-dire une défaite lamentable aux mains de la compagnie des Indes occidentales et des missionnaires et éventuellement des puissances. Et donc, au début du 20e siècle, la Chine, comme le Vietnam, se trouve à peu près dans le même bateau de tentatives de libération nationale, qui va prendre différents chemins, différents biais, différentes idéologies, différents courants politiques qui vont animer tant la Chine que le Vietnam. Et puis, au Vietnam, ce qui s'est produit, c'est qu'au début des années 40, Ho Chi Minh, justement, qui était le chef, finalement, du Parti communiste indochinois, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, a décidé d'adopter une stratégie différente. Il a dissous le Parti communiste indochinois pour fonder le Viet Minh, la Ligue pour l'indépendance. Il a essayé de greffer toutes les tendances contradictoires qui pouvaient exister, de droite comme de gauche, mais qui visaient la libération nationale. Et le grand pari de Ho Chi Minh, c'était de libérer le pays, d'abord et avant tout, de l'agression étrangère.
On pourrait le définir comme une mission à part, en fait. Ho Chi Minh avait vraiment sa vision de ce qu'allait être le parti.
Oui, puis à la limite, c'est pas tant le parti qui l'intéressait, lui, que le pays.
C'était la libération du pays.
Exact. Et il a été un peu pris à son propre jeu parce que les Américains, on se rappelle peu, là, mais dans les années 45-46, après la guerre, ils avaient comme principal allié au Vietnam, dans leur guerre contre les Japonais, le Viet Minh. Il y a des images là, où on voit Ho Chi Minh avec des agents de ce qui aujourd'hui s'appelle la CIA, là, où on s'en sert comme d'un allié.
Donc les États-Unis se servaient d'Ho Chi Minh comme allié alors que lui était pro-communiste?
Oui, mais il était surtout en train de mener une guerre de libération nationale, ce qui, pour les Américains, le droit à l'autodétermination fait partie de l'idéologie fondatrice. Il était surtout en train de se battre contre les Japonais fascistes qui, eux, avaient pris le pouvoir de facto au Vietnam au gré de la perte de puissance de la France. Donc, il s'en est servi comme d'un rempart contre le fascisme japonais. Quand la Deuxième Guerre mondiale se termine, Ho Chi Minh fait le pari que les Américains vont pouvoir l'appuyer dans cette démarche-là de libération nationale. Mm-hmm. Mais rapidement, on le sait, là, l'histoire a basculé rapidement. C'est-à-dire que rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est enclenchée la dynamique de la guerre froide. Et là, évidemment, les Américains ont commencé à avoir d'un mauvais œil, surtout après la Révolution chinoise, l'idée que le Vietnam aussi pourrait basculer du côté du communisme. La théorie des dominos de l'époque, là, si on commence un premier pays, après ça, il va y avoir une réaction en chaîne.
Exactement, puis ça l'effrayait beaucoup, beaucoup les États-Unis.
Exact, avec pour résultat que 80% des dépenses militaires de la France à la fin de la guerre française, de la guerre d'Indochine, sont en fait dépensées par les Américains. Donc, si les Américains n'ont pas fait la guerre seulement à partir des années 64, là, ils étaient déjà, pas directement sur le terrain, mais en train de financer une guerre dans les années 50. Okay. Au Vietnam pour empêcher le basculement. Mais bon, ça n'a pas réussi. Le basculement a eu lieu grâce, en grande partie, pas seulement, évidemment, grâce à l'effort des Vietnamiens d'abord, mais aussi à la capacité militaire et logistique liée à l'alliance avec la Chine. Et c'est là que la Chine a vu d'un bon œil, elle, au contraire, d'avoir à son flanc sud un État communiste fort.
OK. Donc, il y a eu, d'un côté, l'intervention américaine, et de l'autre, le support de la Chine pro-communiste. Puis
on peut dire que le Vietnam, c'est la guerre chaude dans la guerre froide. C'est le lieu, ou l'un des principaux lieux, c'est pas le seul, mais le lieu d'affrontement réel au cœur de cette guerre froide-là. Donc, par le Vietnam interposé, la Chine et l'URSS se sont affrontés aux États-Unis et vice-versa, et au reste de l'Europe.
Oui, puis... C'est fou comment le Vietnam a été un lieu constant de combats, de guerres, puis qui en est sorti vainqueur au final, constamment.
Oui.
Où est-ce que les Vietnamiens, les Vietnamiennes aussi, parce que les femmes ont joué un grand rôle là-dedans, prenaient les armes puis allaient au combat.
Le nationalisme chez les Vietnamiens est extrêmement fort. Il est le patriotisme, on devrait dire peut-être même avant le nationalisme, puisque le nationalisme en tant que tel, une idée... moderne, disons ça comme ça, est apparu au Vietnam plutôt au 20e siècle, a été construit au 20e siècle, mais le patriotisme, il est séculaire, là, on le retrouve à travers toute l'histoire du Vietnam, et ça a continuellement été instrumentalisé par les élites au pouvoir, tantôt contre les Chinois, tantôt contre les Mongols, éventuellement, évidemment, tantôt contre les Français, etc., etc. Donc oui, ça, c'est un atout fort, d'un pays comme le Vietnam, parce que ça mobilise les foules, y compris, comme tu le dis, femmes, enfants et tous. L'autre idée qu'on pourrait faire ressortir, c'est que les Vietnamiens ont manifestement une certaine forme de génie, ou en tout cas une certaine capacité impressionnante à créer les bonnes alliances au bon moment, à réussir à avoir une certaine souplesse dans leurs rapports internationaux, pour le dire de manière un peu anachronique, là, parce que là, ça réfère à ce qu'on vit aujourd'hui, mais ils arrivent, ou en tout cas ils cherchent continuellement à ménager l'un contre l'autre, à faire jouer l'un contre l'autre, à aller chercher des alliances qui sont parfois contre nature. Et ça leur permet d'aller chercher des outils militaires, économiques.
Oui, politique, de l'appui. Ça me fait penser justement que la Chine avait décrit la politique étrangère internationale du Vietnam comme du bambou. Parce que c'est flexible.
En fait, c'est
en apparence solide.
Oui, mais en fait, c'est Nguyen Phu Trong, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, qui définit la politique étrangère du Vietnam comme ça, la politique du
bambou.
Donc,
ça part du parti même vietnamien.
Exact. Cette idée qu'il faut être, comme tu le dis, solide, mais flexible, qu'il faut donner l'apparence d'une certaine souplesse, même pas juste l'apparence, il faut avoir une certaine souplesse, tout en ayant une certaine fermeté. C'est la métaphore qui a été utilisée par l'actuel secrétaire général du Parti communiste, qui est là c'est son troisième mandat maintenant, qui est là donc depuis longtemps, depuis 2011, et qui... redéfini dans le contexte très contemporain là, de revisitation des alliances. Parce que là, on est ailleurs. Là, on parlait de la guerre. Mais après la guerre, les choses se mettent encore une fois à s'accélérer.
Mais tu sais, pour conclure ce chapitre-là, disons, ça allait bien. C'est parce que la Chine avait emmené son support au Vietnam dans le contexte de ces guerres-là. Puis, à un moment donné, en 1979, dans les années 80, on voit la guerre sino-vietnamienne.
Oui.
C'est quoi qui a déclenché cette guerre-là?
Mais en fait, oui, bonne question. L'origine est un peu... ça précède tout ça. Au début des années 60, il y a une rupture qu'on appelle la rupture sino-soviétique. Les Russes et les Chinois se coltaillent, en quelque sorte, sur leurs frontières. Mais surtout, en fait, c'est une querelle essentiellement idéologique L'URSS se voit comme le patron du monde communiste, celui qui va mener la révolution mondiale. Et puis les Chinois, qui depuis toujours ont une grande fierté aussi nationale, se voient pas comme étant des subalternes de l'URSS. Et donc, il y a une espèce de colosse qui se battent pour la direction de la révolution mondiale. Il y a une rupture qui se crée là. Cette rupture-là va faire en sorte que la branche, disons, appelons-la stalinienne, à l'intérieur du Parti communiste vietnamien, va décider de s'associer ou de s'allier à l'URSS. Donc, toute la deuxième guerre d'Indochine, celle qu'on appelle ici la guerre du Vietnam et que mm-hmm. là-bas on appelle la guerre américaine, s'est fait non pas avec l'alliance avec la Chine, mais avec l'alliance avec l'URSS. C'est l'URSS qui va armer, qui va conseiller, qui va fournir la logistique pour que les Vietnamiens puissent mener cette guerre-là et éventuellement la gagner, comme on le sait, en 1975. La rupture, donc, est consommée entre la Chine et le Vietnam à ce moment-là. Et ce qui explique la guerre sino-vietnamienne, c'est quand même ça. Il y a déjà un élément de rupture qui est là. Mais c'est aussi que les Vietnamiens, en Asie du Sud-Est, ont un certain ascendant sur toute la péninsule indochinoise. C'est pas pour rien que ça s'appelait le Parti communiste indochinois avant de prendre le nom de Parti communiste du Vietnam en 1976. Donc, il y a une espèce d'ascendant, notamment sur le Laos. Et puis, la Chine voit d'un assez mauvais œil que l'URSS, que c'est l'influence du Vietnam, donc de l'URSS par ricochet, dans son arrière-cour. Et donc, la Chine va prendre parti pour le Parti communiste des Khmers rouges au Cambodge.
Okay.
Et là, les Khmers rouges vont chercher à reprendre une partie du territoire dans le sud de l'actuel Vietnam qu'ils considèrent comme étant un territoire khmer. Il va y avoir des escarmouches à la frontière et puis même des morts du côté vietnamien. Et les Vietnamiens vont décider d'envahir le Cambodge. En 1978, ils vont d'ailleurs y rester jusqu'au début des années 90. Mais en faisant ça, ils s'attaquaient directement à l'allié principal dans la région, du moins de la Chine. Et donc la Chine, en guise de représailles, en 1979, va rentrer dans la frontière nord du Vietnam. Manifestement, je dis manifestement, c'est pas si manifeste en fait. ça a duré quelques semaines, ça a été un massacre assez important des deux côtés, mais particulièrement du côté vietnamien. La guerre s'est arrêtée très rapidement, donc j'étais pour dire manifestement, ils voulaient pas envahir le Vietnam, sinon quoi il aurait fait, mais en même temps, c'était peut-être pas si manifeste parce que la Chine n'était pas non plus au fait de sa puissance à ce moment-là. Okay. Les forces étaient inégales, évidemment, comme toujours, mais peut-être pas autant qu'elles le sont aujourd'hui. Mais donc, la guerre a duré quelques semaines, disons ça comme ça. Ça a jeté évidemment un froid sur la relation qui a persisté jusqu'à la reprise des relations bilatérales en 1991. Oui.
Évidemment, c'est sûr qu'on ne s'entend pas très bien après une guerre comme ça.
Non.
Mais maintenant, on comprend mieux que cette guerre-là n'était pas le résultat d'un conflit direct ni indirect par l'intermédiaire du Cambodge. Et puis, maintenant qu'on comprend un peu ces relations-là, on pourrait passer à aujourd'hui. Mm-hmm. Comment le Vietnam, après tout ça, perçoit la Chine, perçoit l'influence, la politique, la culture. Je me rappelle qu'à un moment, ils ont visité une ancienne pagode à Ninh Bình. Et j'ai eu la chance de discuter avec un Vietnamien qui parlait français, qui a dit les mots suivants, c'est respect et réticence envers la Chine.
Exact. C'est vraiment le rapport amour-haine, il est comme congénital à l'existence du Vietnam. Ça a toujours existé, puis ça prend après ça des tournures différentes, plus ou moins virulentes ici et là, selon au gré de notamment des rapports internationaux. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, comment on voit ça? Ben, les Vietnamiens sont extrêmement patriotiques, extrêmement nationalistes, donc ils ont une réticence effectivement envers la Chine, qui est quand même un colosse, là, qui est quand même une puissance mondiale qui est juste aux portes. Déjà dans le livre blanc de la défense au début des années 2010, on parlait d'un voisin encombrant. Et puis le Parti communiste chinois a fulminé, a fait changer les mots dans le livre blanc vietnamien parce qu'il ne voulait pas passer pour un voisin encombrant, mais plutôt comme un ami, un allié, etc. Donc oui, chez les Vietnamiens, tant à un niveau officiel que dans la population en général, la Chine, on s'en méfie. En même temps, on n'a pas le choix de reconnaître l'apport de la Chine. On la voit partout quand on est au Vietnam, ancienne comme contemporaine.
Tu sais, des exemples pour nos auditeurs, par exemple, d'exemples où est-ce qu'on voit la Chine un peu partout, quand on vit, quand on mange en Chine, quand on se promène?
Bien, tu l'as vu comme moi, hein, quand on se promène un peu partout, il y a beaucoup, beaucoup de temples mm-hmm. au Vietnam, bouddhistes, mais pas seulement. C'est toujours difficile même d'identifier à quelle confession appartient un temple, tellement
oui.
Le syncrétisme religieux est ainsi fait que dans un temple bouddhiste, on va célébrer quand même une divinité taoïste, puis en même temps, on va célébrer tel héros de telle guerre. Mais toujours est-il que tous ces temples-là, on y voit l'empreinte chinoise à travers l'iconographie, à travers l'écriture, par définition. C'est le principal partenaire économique du Vietnam déjà depuis le début des années 90, là, quand la relation s'est reconstituée, ce qui fait en sorte que les produits chinois sont partout. Là.
Oui, c'est vrai, on en voit beaucoup.
Donc, ils vivent en banlieue de la Chine d'une certaine manière. Donc, il y a aussi une certaine forme, je sais pas comment le dire, d'admiration, le mot serait un peu fort, mais quand même, la Chine s'est déployée ces dernières années. Et ça fait un peu plaisir aussi au monde sinisé en général, parce que ça devient leur locomotive. Hein, ça okay. permet, c'est leur principal partenaire économique, mais ça permet aussi beaucoup de développement mmh. économique.
Leur réussite est un peu, en quelque sorte, leur réussite aussi.
Bon, en tout cas, en partie, du moins, ça c'est sûr. Donc là, il y a un enjeu où il faut créer des liens. Il y a un enjeu politique aussi. Ça reste deux États dirigés par un parti communiste qui ont besoin l'un de l'autre d'une certaine manière. La Chine n'a pas intérêt à ce que le Vietnam cesse d'être un régime à parti unique communiste.
Mmh.
Elle a, au contraire, tout intérêt à ce que ça reste un parti assez fort qui ne risque pas de sombrer dans l'orbite américaine, par exemple, ou occidentale, pour qui...
Ce serait son pire cauchemar.
Assurément, parce qu'elle en est déjà plein les bras avec l'alliance entre les États-Unis et Taïwan. Donc, on ne veut pas l'alliance avec le Vietnam, bien qu'il y ait une alliance avec le Vietnam et les États-Unis, oui. mais toujours modérée par le fait que les Américains ne peuvent pas non plus embrasser le Vietnam comme si c'était une démocratie libérale.
Je pense que d'ailleurs, c'est un sujet de conflit, tu sais, dans les relations actuelles, relations internationales actuelles avec la Chine, justement, l'alliance, qui n'est pas vraiment une alliance avec les États-Unis, mais un rapprochement, si on presse de ça comme oui. ça, vient titiller la Chine, nécessairement.
Assurément, puis c'est là que la position du Vietnam est très équilibriste. Parce que d'un côté, il faut ménager son principal allié qui est la Chine. On n'a pas le choix, c'est son principal allié sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique. Donc on n'a pas le choix de ménager cet allié-là. En même temps, comme toujours, on cherche à avoir des alliés qui viennent dans la balance, en quelque sorte, créer l'équilibre. Donc, il faut aller chercher des alliés qui sont non naturels, d'une certaine ouais. manière. À ma connaissance, le Vietnam a des degrés là, de partenariat avec différents pays dans les accords bilatéraux. Puis le plus haut degré s'appelle le partenariat stratégique global. À ma connaissance, ils en ont établi 4 avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie et nouvellement avec les États-Unis.
Okay.
4 partenaires invraisemblables.
Oui, c'est complètement différent. On a les deux bouts de l'axe complètement.
Exact. Donc, c'est le génie du Vietnam de nager à travers tout ça, mais ce faisant, ça le fragilise aussi. Parce mm-hmm. que ce faisant, ben, il est aux prises des querelles entre ces parties-là.
Oui.
J'en donne un exemple très, très récent. Quand on était au Vietnam, on n'a pas entendu parler au Vietnam ou presque, puis dans la presse internationale, presque pas non plus. Il y a eu une petite escarmouche en mer... ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale chez les Chinois, ce qu'on appelle la mer orientale chez les Vietnamiens, le oui. sud pour les uns, l'est pour les autres. Donc déjà, juste la dénomination et la marque d'un conflit ou d'un pas la même...
D'un désaccord.
Un désaccord sur l'interprétation, exact. Il y a eu une petite escarmouche, c'est-à-dire un bateau chinois scientifique, une mission scientifique, dans les eaux exclusives du Vietnam, avec son armada, évidemment. Le Vietnam a protesté. Mais il s'était passé la même chose en 2019. Mais en 2019, c'était Trump aux États-Unis qui s'était insurgé et Poutine qui s'était insurgé contre la Chine parce que ces eaux-là sont des eaux exclusives vietnamiennes, mais sont exploitées par des compagnies russes. Donc, la Chine s'était retirée. Là, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, il se repasse la même chose. Et là, tout d'un coup, la Russie ne dit pas un mot. Évidemment, parce que là, présentement, Poutine a besoin de l'alliance avec la Chine dans, mmh. Dans la querelle contre l'Occident dans le contexte de la guerre de l'Ukraine. Et Biden, aux États-Unis, ne dit pas un mot non plus. Mais en fait, il dit un mot. Il dit qu'il ne faudrait pas en venir au coude, il ne faudrait pas user de la force. Il est allé visiter le Vietnam
au mois de septembre. Le petit discours habituel d'un politicien qui ne veut pas trop se mouiller, mais exact. Qui appelle à la non-violence.
Mais qui n'a pas montré les crocs, cela dit. Qui n'a mm-hmm. pas menacé de représailles. Il a juste dit « Ah, ça ne serait pas bien que ça se passe ». Donc là, le Vietnam, il joue continuellement. En quelques années comme ça, ses alliances bougent. Au gré de la fluctuation des rapports internationaux qui n'ont rien à voir avec lui. Là, lui, et le Vietnam et la guerre
d'Ukraine. Il est juste entre ces trois pays-là.
Exact. Fait qu'il nage à travers tout ça. Puis il doit d'un côté, et pour continuer sur ta question, il doit d'un côté le régime, par exemple, continuer à maintenir ses liens avec le Parti communiste frère, qui est le Parti communiste chinois. De l'autre côté, il ne faut pas qu'il montre trop complaisant envers la Chine, parce que la population locale au Vietnam craint aussi l'impérialisme chinois, en quelque sorte, cette idée que la Chine prenne possession du Vietnam, ce qu'ils font d'une certaine manière, parce que la Chine, sa stratégie, c'est l'investissement économique, mais l'investissement économique au Vietnam, ça signifie de recevoir des zones économiques spéciales, donc pouvoir utiliser le territoire pour une période de 50 ans renouvelable, selon sa guise, pratiquement sans taxation. Donc, il y a beaucoup de Vietnamiens qui interprètent ça comme si on était en train de vendre au rabais son propre pays, que ça crée des enclaves chinoises à l'intérieur du pays.
C'est légitime, il n'y a pas juste le Vietnam qui va réagir comme ça face à un avantage économique qu'on laisse à un pays aussi puissant.
Exact. Mais quand une chose arrive comme ça, ici, par exemple, au Canada, eh bien, les gens ne sortent pas dans la rue avec des drapeaux anti-chinois. Ils vont à la limite manifester pour... contre la spoliation des ressources. Mais au Vietnam, c'est littéralement très, très, très ciblé. Là, on sort dans la rue, il y a un très vif sentiment nationaliste anti-chinois. Et ce vif sentiment anti-chinois, bien, le Parti communiste vietnamien doit le ménager parce que parfois, ça lui sert que ça existe et parfois, ça lui dessert. Fait qu'au gré, encore une fois, de son usage de la chose, bien, tantôt, il l'encourage, ce mouvement-là, parce que ça lui donne une légitimité internationale. Il dit, regardez, les Vietnamiens sont derrière nous. On voit bien qu'on est...
On est un pays qui est cellulaire, puis
on est contre telle ou telle manœuvre navale, par exemple, de la Chine. Puis de l'autre côté, parfois, ça lui dessert parce que ça pourrait risquer de sa légitimité, sa mise en légitimité. Et donc là, on va réprimer fortement ces mouvements-là, parfois, sous prétexte qu'ils seraient animés de forces hostiles qui en veulent au parti et qui voudraient mener à une révolution de couleur. Puis ça, les Vietnamiens, comme les Chinois, en veulent pas. Ils sont toujours sur la corde raide, puis toujours à savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle du parti? Est-ce qu'on parle
du peuple en général? Est-ce que c'est les deux?
Dans le parti, il y a des factions. Comme je le disais, parmi les spécialistes, beaucoup de gens qui disent qu'il y a des très hauts membres du parti qui auraient des intérêts chinois, qui ont tout à gagner à ce que les Chinois soient très présents au Vietnam. D'autres, non. D'autres ont plus à gagner d'obtenir des sources de financement qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a à l'intérieur
même du parti. Est-ce qu'on parle ici de factions dues à une certaine... Là, j'hésite à dire corruption des personnes au pouvoir?
Corruption, c'est une chose qui existe. Je ne pense pas qu'il faille avoir peur d'en parler dans le contexte du Vietnam comme de nombreux autres pays, mais pas seulement. C'est-à-dire que si la corruption, c'est une chose qui existe, la structure économique même pousse vers ce genre de comportement, et je m'explique... Depuis la fin des années 80, début des années 90, le Vietnam est passé à un autre régime qu'on a appelé le Doi Mui, qui veut dire la rénovation, le renouveau.
Oui, le fameux Doi Mui.
Exact. Ouverture sur le monde, ouverture aux flux commerciaux et mise en place de ce que les Vietnamiens appellent l'économie de marché à orientation socialiste. L'économie de marché à orientation socialiste, c'est cette idée d'une forme de privatisation, quoique c'est un mot qu'on n'utilise pas au Vietnam. On appelle ça la socialisation. On redonne à la société.
Okay.
Ce qui est un drôle de renversement, parce que la socialisation des moyens de production dans le marxisme, c'était l'idée au contraire de s'approprier entre les mains privées pour les redonner à l'État.
Mais là, c'est du privé qui est camouflé sous une forme de socialisme.
Exact. Mais là, on veut redonner ces entreprises publiques ou collectives ou étatiques à l'univers privé, mais en se gardant le plus possible le contrôle stratégique des principales ressources, dont la terre et d'autres. Ce qui fait que la locomotive de l'économie vietnamienne en ce moment, c'est des grandes corporations internationales qui sont dans des zones exclusives dans lesquelles ils ne payent pratiquement pas d'impôts, mais qui embauchent des milliers de gens. On parle à Samsung, North Face, etc. Il y en a pour moi que le cœur de l'économie vietnamienne, ce n'est pas ça. Ça, c'est la locomotive productrice et exportatrice, mais le cœur, ce sont des entreprises qu'on appelle des entreprises possédées ou appartenant à l'État. Mais ils n'appartiennent pas à l'État comme nos entreprises d'État ici, qui sont sont à 100% étatiques. Pour que ce soit une entreprise d'État, il faut qu'il y ait un contrôle du capital de 50% plus 1. Mais donc, les 49% autres, ils appartiennent à des privés, à des personnes privées, qui sont souvent des membres du parti, plus ou moins bien placés pour être capables d'acheter les actions. On appelle ça l'actionnarisation. On a vendu des actions des entreprises d'État, qui restent donc des entreprises d'État, mais souvent dirigées et au bénéfice de ces actionnaires qui sont des personnes privées et qui est privilégié pour y avoir accès, mais souvent des membres du parti.
Ils sont dans le parti,
exact.
Mais j'imagine que les membres du parti n'ont pas tous les mêmes actions, n'ont pas tous les mêmes intérêts, donc d'où les divisions.
Exact, n'ont pas tous les mêmes moyens d'y avoir accès, déjà en partant. Ensuite, n'ont pas tous les mêmes intérêts.
Mais ce n'est pas toutes les élites dans le fond, des élites économiques qui sont au pouvoir, ou il y a aussi des gens issus de la classe moyenne, voire de la pauvre, d'une classe plus pauvre?
Non, disons qu'il y a deux catégories d'élites au Vietnam. Il y a l'élite politique, qui par définition est politico-économique, puis tu as l'élite économique en tant que telle, qui par définition a toujours un bras quelque part ou un membre de la famille quelque part, pas loin du parti. Donc, certains parlent de capitalisme de copinage. Hein, on se fait copain-copain, et puis c'est comme ça qu'on réussit à s'approprier des portions.
On est comme les deux partis politiques, puis économiques, puis on est copain-copain.
Mais en même temps, la visée reste le maintien du régime. Puis pour que le régime, c'est là tout l'équilibrisme encore une fois du Vietnam, pour que le régime, et non pas par exemple juste la production d'une oligarchie économique qui va éventuellement faire tomber le tout tout en ramassant la mise, là on veut maintenir le régime. Mais pour maintenir le régime, il faut non seulement que des entreprises produisent, il faut qu'il y ait des résultats concrets économiques, il faut que les gens sortent de la pauvreté, ce qui est le cas en grande partie. Il faut aussi trouver justement des moyens de se légitimer socialement et politiquement. Fait que là, c'est là tout l'équilibrisme entre les besoins sociaux, les besoins d'enrichissement d'une certaine élite oligarchique liée au parti, la nécessité d'une légitimation sur le plan nationaliste, donc la querelle avec la Chine, le maintien... Bref, c'est une bibitte assez étrange qu'on se met à décortiquer.
C'est ça, il y a l'aspect économique, comme on dit, mais beaucoup social, puis toute la légitimité. Il y a beaucoup de lois qui sont instaurées quand même au Vietnam, mais en même temps, il y a une grande laxité. Je pense notamment aux petits marchés. Par exemple, on parle de ça. Dans les rues de Hanoï, et quand on se promène au centre-ville, dans le vieux quartier, les personnes vont, à partir de comme 4 heures de l'après-midi, sortir leur table puis leur petite chaise en plastique devant leur commerce. Puis là, les gens abondent dans les rues, ils viennent manger, ils viennent boire. Puis à minuit pile, tout le monde range les tables et les chaises. Il n'y a plus personne dans les rues parce qu'il n'y a pas l'espace. Puis c'est terminé. On ne peut plus rien vendre.
Exact. En fait, ce qui est très, très... ça aussi, c'est, je ne sais pas si on faut dire drôle ou curieux. En tout cas, quand on est là, on n'a pas le choix.
Curieux, certainement. Mais oui, on est fasciné.
C'est fascinant.
C'est fou comment ça change en un claquement de doigts.
Exact. Le passage au Deuil-Meuil, je vais faire un petit détour par là, puis je reviens. Mais le passage au Deuil-Meuil, ça a voulu aussi dire qu'il fallait mettre en place les conditions, appelons-la politique, juridique, un certain cadre pour la pratique des affaires. Hein, on veut s'ouvrir sur le monde, on veut avoir des investissements étrangers, on veut mettre en place des entreprises, etc. Donc, la logique qui précédait, qui était finalement le parti qui décidait par décret, avec très, très peu de législation, il fallait y devenir autre chose. Puis on a mis en place ce que les Vietnamiens appellent l'état de droit socialiste. On pourrait faire un long détour sur en quoi c'est un état de droit, là, mais en tout cas, je pense que le qualificatif est important pour qu'on comprenne qu'on n'est pas dans l'état de droit libéral. Ça ne veut pas dire la reconnaissance des droits individus, ça veut dire la reconnaissance des droits de l'État, pour faire ça simple. Mais donc, on a mis en place un cadre législatif qui va en s'accélérant depuis 40 ans. Les 20 dernières années, une très, très forte production législative. L'Assemblée nationale fonctionne à plein. On vote des lois, on décrète, on organise la vie sociale à travers la norme juridique, ce qui n'avait jamais été le cas. Mais ce qu'on comprend quand on y est sur place, on comprend mieux ce qu'on a lu dans un livre, c'est finalement entre la production industrielle de normes juridiques et son application, il y a un monde qui est le monde réel.
Il y a un monde réel.
Il y a un code de la route, crois-le ou non, au Vietnam.
J'ai de la misère à le croire, honnêtement.
Il suffit d'y être allé 20 minutes pour se dire, non, il n'y a pas de code de la route et donc c'est plutôt des normes informelles qui font qu'on est capable de traverser sans mourir. Mais non, il y a un vrai code de la route. Comme il y a des lois où on n'a pas le droit d'utiliser le trottoir pour autre chose que la circulation.
Visiblement, ce n'est pas utilisé que pour la circulation.
En fait, si tu veux circuler, va surtout pas sur le trottoir. Il n'y a pas d'espace. Parce que, comme tu disais, il y a des commerces, il y a des commerçants, il y a des gens qui mangent,
il y a des gens qui font sécher leur linge, il y a des enfants qui jouent. Et je veux dire, il y a tout ça des gens qui circulent.
Mais c'est interdit. Moyennant, évidemment.
Visiblement, l'application est différente.
Mais c'est ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est que le Vietnam se constitue comme entité politique, juridique, qui veut atteindre des standards internationaux pour pouvoir atteindre des standards de développement. Le Vietnam, l'État vietnamien prétend atteindre le stade ou le club sélect des pays riches en 2045. Et effectivement, il y a une immense transformation entre le Vietnam d'aujourd'hui et le Vietnam d'il y a 30 ans déjà, juste sur le plan de la production de la richesse économique et la pauvreté, une diminution drastique. Mais en même temps, dans la réalité, on voit qu'il y a un flou qui existe entre ces cadres formels-là puis la réalité concrète. Puis qu'est-ce qui explique cette réalité concrète? Bien, vraisemblablement, les réseaux de relations qui fait que le chef du quartier, c'est ton beau-frère et ou c'est ta belle-sœur et ou c'est quelqu'un que tu connais.
Fait que dans certains quartiers, ça serait plus sévère, alors que d'autres, ça serait plus laxiste.
Et dépendamment de qui tu es aussi, de la relation que tu entretiens, dépendamment de l'enveloppe que tu transmets. Puis là, tout ça, oui, ça rentre dans ce que chez nous, on appellerait de la corruption, mais qui est au Vietnam, est un mécanisme traditionnel même de circulation des relations sociales. Ça passe à travers le jeu du don contre don, des cadeaux qu'on collige parce qu'on sait que si on a donné tant au mariage, mais il va falloir qu'on nous redonne tant au prochain mariage.
Oui, c'est vrai, les fameuses enveloppes rouges là, aux têtes qu'on donne à toutes les personnes avec qui on veut garder un bon lien, pas seulement la famille.
Exact.
J'ai oublié l'idée que je m'en allais avec ça, mais ce que tu dis était vraiment intéressant par rapport à toutes les législations qui ont accentué avec les dernières années.
Oui, absolument. Parce que l'objectif du Vietnam, c'est quand même d'établir, puis il le fait, là, établir des partenariats multilatéraux ou bilatéraux avec de nombreux pays pour des raisons essentiellement économiques, mais aussi stratégiques, militaires, politiques. Entre autres, si on revient avec le sujet qui nous interpellait tout à l'heure, dans la querelle qu'il oppose avec la Chine, par exemple en mer méridionale ou en mer orientale, dépendamment du point de vue géographique, le Vietnam a besoin de tout ça. Mais pour avoir accès à ça, mais il faut qu'ils garantissent aux investisseurs potentiels un environnement relativement sécuritaire, prévisible, etc. Fait qu'il n'y a pas le choix de mettre en place ces structures-là. Ce faisant...
C'est plus un parallèle, dans le fond.
Ben oui et non. C'est-à-dire que d'une certaine manière, oui, on a réformé le code du fonctionnement bancaire au Vietnam. Oui, on a réformé tel ou tel article de la loi qui fait en sorte que les investissements sont garantis. Donc, non, ce n'est pas que façade, mais ça reste que ça se joue dans une dynamique qui a deux niveaux. Il y a le niveau formel qui apparaît sur la scène internationale. Après ça, il y a le fonctionnement réel d'une société qui n'a jamais fonctionné selon ces principes-là strictement contractuels.
C'est ça. Elle n'a jamais fonctionné comme ça, mais au fond, il y a une certaine résistance.
Oui, exact. Parce que le paradigme de fond de la réalité vietnamienne et par extension de bien d'autres sociétés, là, il n'est pas dans ce paradigme individualiste contractuel de l'individu qui est dégagé des relations et qui, selon son bon vouloir, rentre en relation avec autrui suivant un protocole juridique. Donc, la norme fondamentale au Vietnam, ce n'est pas la norme juridique, bien qu'elle tend à s'imposer de plus en plus. La norme fondamentale, elle reste coutumière, ça reste dans le réseau de...
Moral,
relationnel, dans ce que l'on... les réseaux de relations que l'on connaît, etc. Puis ça se répercute ensuite partout. Quand je te dis, tout m'intéresse, puis je suis spécialiste de rien, mais récemment, je lisais un truc sur l'accès à la propriété dans le monde rural, dans le nord du Vietnam. Puis qu'est-ce qu'on découvre, sans que ça nous jette par terre une fois qu'on connaît un peu le Vietnam, c'est que le capital productif, finalement, on l'acquiert à proportion de son capital social. Plus tu connais de gens et des bonnes personnes, plus tu as accès au crédit local, plus tu as accès à l'achat d'une terre, etc. Si tu connais personne...
Payant de connaître des gens.
Exact. Si tu connais personne, tu te présentes à la banque, c'est pas une question de solvabilité. C'est là le point de vue contractuel qui est le nôtre. C'est que moi, je ne connais pas la caisse ou la banque. Elle ne me connaît pas. Ils n'ont pas besoin de me connaître. Ils ont juste besoin de s'assurer que j'existe. C'est mon numéro d'assurance sociale.
Au Vietnam, on veut s'assurer que ton statut social...
Exact. T'es qui? Ta moralité, c'est quoi? Et par moralité, on veut dire aussi ta loyauté au parti. Ça implique tout ça. Là. Ça implique une certaine docilité au régime. Donc, ces réseaux-là de relations... Bien, vont se structurer jusque dans le menu détail du coin de la rue de la madame qui ouvre sa petite échoppe et jusqu'aux plus hauts offices de l'État qui va éventuellement ouvrir des actions pour pouvoir devenir un actionnaire de la compagnie pétrolière.
C'est ça. On revient encore une fois au Parti communiste. Ça me fait penser à cet été. Je t'avais parlé que le Vietnam a banni le film Barbie parce que on a vu apparaître à l'écran quelques secondes seulement, mais quelques secondes de trop pour le Parti vietnamien, une carte du monde où est-ce qu'on voit une ligne à neuf traits dessinée au crayon dans la partie où est-ce que c'est la mer méridionale. Donc, le Vietnam se pose à cette ligne à neuf traits qui a été dessinée par la Chine, parce que la Chine veut prendre possession de ces territoires-là, de ces eaux-là, disons. Puis le Vietnam s'oppose, comme plusieurs autres pays, tels que les Philippines, puis la Malaisie, parce que ça fait partie de leur territoire. Donc, est-ce que tu étais surpris de ça, considérant que tantôt on parle de la politique du Parti communiste, on parle de la politique vietnamienne internationale, est-ce que c'était une réaction intense? Est-ce que c'était tout à fait normal, au contraire?
Bien, tu sais, d'entrée de jeu, c'est surprenant. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, moi, je suis allé voir Barbie juste pour ça. Après ça, je voulais la voir, la fameuse carte. Puis après ça, bon, évidemment, je l'ai vue. J'ai pas reconnu une carte du monde. J'ai pas rien reconnu.
Non,
comme,
c'est sûr.
Comme
c'est
tout
un
le monde.
Peu irréaliste.
Exact. Ce que dit d'ailleurs, ce que dit aussi le producteur, ce que dit le producteur de film aussi, c'est purement imaginaire cette affaire-là, mais en tout cas, qu'importe. Sur arrêt sur image, moi, j'ai compté 7 lignes, et non pas 9. Les Philippines ont décidé de ne pas censurer le film tout en condamnant la fameuse ligne à 9 traits, mais ils l'ont pas condamné, mais leur argument, c'était « Ah, il y avait juste 8 lignes ». Fait que moi, j'en ai compté 7, eux autres, ils en ont compté 8, le Vietnam prétend qu'il y en a 9. Là-dessus, on n'a pas le choix d'être surpris, puis même peut-être de rigoler un peu. C'est genre, voyons. C'est...
On était, oui. Ça a fait un peu la une des journaux d'une façon un peu absurde.
Parce... J'ai fouillé après ça, moi, dans les journaux vietnamiens, parce que je me suis dit, des fois, la presse internationale s'en base sur une idée, mais au Vietnam, est-ce qu'on l'a couvert? Le journal le plus lu au Vietnam s'appelle le Chuang Che. C'est moi qui le dis, c'est mon accent, moi. Ça veut dire la jeunesse. C'est un accent. Un média du parti, évidemment. Puis oui, on l'a couvert. Cette idée qu'on l'avait censurée pour les raisons les mêmes qu'on nous a dit ici. La fameuse ligne à 9 traits, c'est inacceptable. Fait que, oui, d'une certaine manière, c'est surprenant. D'un autre point de vue, si on se met dans la logique du parti, dans le fonctionnement du mécanisme de la censure, mais on peut se dire que c'est pas si étonnant. Et finalement, c'est peut-être qu'ils ont fait une pierre deux coups. Dans le sens qu'ils avaient tout à gagner à faire ça. Ils n'ont pas grand-chose à gagner de que Barbie soit... ou non.
Oui,
dans
il
n'y
avait
salle
pas grand-chose à perdre à censurer.
Ni
les
à
films.
Gagner, ni à perdre. Mm. La majorité des Vietnamiens ne vont pas au cinéma. Ceux qui vont y aller, à la limite, tant mieux pour les Vietnamiens, c'est-à-dire l'État parti, ils n'auront pas accès à ce qu'eux vont leur apparaître comme une propagande bizarre, parce que ce n'est pas juste la ligne à 9 traits, c'est tout leur jeu de
la
critique, des jeux de rôle.
Mais
les jeux de rôle, les rôles de genre.
C'est vrai, il faut penser que c'est différent en Asie. Ce n'est pas compris pareil comme nous, on le perçoit.
D'une certaine manière, ils ne perdent rien à faire ça, et peut-être même qu'ils gagnent sur le plan de leur moralité interne. Puis sur le plan géopolitique, ils gagnent aussi parce qu'ils montrent une certaine fermeté. Mais pendant ce temps-là, Nguyen Phu Chong, le secrétaire général du Parti communiste, au mois de novembre dernier, a signé des ententes de coopération militaire avec les Chinois. Pendant ce temps-là, on continue à maintenir la communication, les canaux de communication, et notamment l'achat de beaucoup de matériel militaire auprès de la Chine. Donc, ça permet d'avoir l'air, pour l'opinion intérieure comme pour l'opinion publique, ferme et résolu, ce qu'ils sont à leur manière, tout en ménageant le chèvre et le chou, parce qu'ils ne vont probablement pas se faire réprimander par la Chine communiste parce qu'ils ont aboli un film américain.
Je serais curieuse de savoir leur réaction, probablement anodine. Je ne sais pas s'il y a eu une réaction seulement.
Je ne sais pas moi non plus. Puis comme les rapports entre les deux parties sont très opaques, on ne saura jamais. Mm. Mais tu sais, d'une certaine manière, on peut toujours juste s'amuser et s'imaginer rigoler ensemble, tu sais, Xi Jinping et puis Chang, tu sais, se taper sur les cuisses en disant « Hey, on a-tu l'air d'être des ennemis, là, solides? » Mais en même temps, tout ce que tu as fait, c'est de proscrire un film américain qu'on n'avait rien à gagner d'avoir sur le territoire.
C'est le cas, peut-être que la Chine a même été satisfaite. Dans un certain sens, on parlait de sujets quand même assez profonds. On parlait de patriarcat dans le film de Barbie, on parle du système genré.
En même
genré.
Temps, la Chine n'aime pas qu'on remette en cause sa fameuse ligne, parce que pour elle, c'est quand même c'est son affirmation depuis 1947. C'est ça qui est ça. Puis elle n'en déborde pas malgré le tribunal de la haine.
Certainement,
malgré...
puis c'est un gros sujet de conflit. Ouais. C'est pas la première fois que le Vietnam réclame sa souveraineté dans cette zone-là.
Tout à fait. C'est pas la dernière. Fait que là, on rigole en disant qu'ils devaient en rigoler. Pas tant, mais... Au final, donc, est-ce que c'est surprenant? Oui, de notre point de vue. D'un point de vue stratégique, non. Ça coûte pas grand-chose, puis ils sont gagnants sur à peu près tout là-dessus. Quand, par contre, ils censurent des films chinois, ce qu'ils font aussi souvent, ça, évidemment, c'est une autre forme d'affirmation aux yeux de la Chine en
particulier. Impérialisme.
Ouais. Mais ça aussi, encore une fois, c'est tout un enjeu de tractation. C'est-à-dire, comment on peut apparaître pour l'opinion interne, notamment... comme étant ferme, tout en étant quand même ouvert à plein de collaborations, parce que la Chine reste, on le répétera jamais assez, le principal partenaire. Certains même prétendent que là dans le contexte où les États-Unis ont assez mauvaise presse dans la région asiatique, sud-est asiatique, que le Vietnam est peut-être en train de ménager une façon de générer une collaboration encore plus forte avec la Chine pour au moins se donner des leviers de négociation. Parce qu'on s'entend que la Chine, le Vietnam ne fait pas le poids face à la Chine là, sur le plan économique et militaire.
Non, absolument pas. C'est une évidence. Et au niveau des relations internationales, la Chine est un pays assez puissant.
Oui.
Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de ce sujet-là. On a bien abordé l'influence chinoise au Vietnam. On a vu qu'il y avait encore beaucoup de traces culturelles de cette présence-là qui durait un millénaire. Donc, on voit aussi que les tensions sont encore bien présentes entre les deux pays.
Mm-hmm.
Merci beaucoup, Jean-François, d'être venu discuter aujourd'hui.
C'est un plaisir. Merci de l'invitation.